Bintiminoudi, l'émission politique d'RCFM, Patrick Vinciguerre.
Bonsoir, nouveau numéro de Bintiminoudi avec comme invité ce soir François-Xavier Tchéco, l'immaire de San Giuliano, conseiller territorial, président de la Fédération Les Républicains de Haute-Corse. François-Xavier Tchéco, les bienvenus.
Bonsoir.
Beaucoup de choses au menu de ce Bintiminoudi au niveau régional mais aussi au niveau national. Chez nous, à la veille d'une grève de la CGT dans le Maritime, vous nous donnerez votre sentiment sur la gestion du dossier des transports. D'une manière plus générale, nous évoquerons la politique régionale vue des bancs de l'opposition. Nous vous intéresserons aussi aux futures échéances électorales, à commencer par les européennes. Sur la liste LR, le premier ou plutôt la première est 26e. Autrement dit, elle n'a strictement aucune chance d'être élue. Nous dirons deux mots aussi sur les municipales, notamment à Bastia. Mais avant, à la veille de la 42e journée internationale des droits de la femme, un retour sur l'assassinat dimanche dernier d'une jeune femme à l'Île-aux-Rousses. Les violences faites aux femmes, c'est cette semaine le dossier de Bintiminoudi.
Bintiminoudi, le dossier.
5 jours après le drame, la Corse est toujours sous le choc. Colère et incompréhension dominent. En solidarité, une marche blanche aura lieu samedi dans la cité Paoline. Une autre le lendemain à Ajaccio. Tous les 3 jours en France, il faut le savoir, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. 30 victimes déjà depuis le début de l'année. Violence physique, violence verbale. Quand la situation dérape, une seule solution, selon Sabrina Perrault, commandante de la gendarmerie d'Ajaccio. Porter plainte.
C'est important de venir porter plainte pour qu'il y ait une réponse judiciaire qui soit apportée à leur dossier. Donc il faut venir à la gendarmerie ou composer le 17 dès que des violences sont exercées. Il est important aussi pour l'entourage de ces victimes de signaler toute situation à risque. Il n'y a pas forcément besoin d'une plainte pour pouvoir mener une enquête. Et une enquête sera conduite sur des violences, qu'elles soient physiques, verbales ou psychologiques.
De nombreuses associations sont là pour venir en aide aux femmes battues. Un numéro d'urgence aussi, le 3919. Et puis des aides au logement sont possibles. Jean-Jérôme Tavir est en charge de l'accueil de jour au centre d'hébergement de la Falep à Ajaccio.
Lorsque ces femmes nous appellent, évidemment, nous faisons un diagnostic de la situation et si tant est qu'il faille aller vite et à savoir mettre en protection ces femmes, nous avons l'opportunité, à travers un dispositif d'urgence, de les mettre en sécurité, soit dans des hôtels, soit dans un lieu dédié à l'hébergement, le temps que nous trouvions une solution de logement ou d'hébergement pérenne.
Interrogée mercredi à l'Assemblée nationale par le député nationaliste Michel Castellagne, la ministre chargée de l'égalité homme-femme a qualifié la mort de Julie Douib d'insupportable et d'injustifiable. Marlène Schiappa a également évoqué les actions entreprises par le gouvernement pour lutter contre les violences faites aux femmes.
Des contrats locaux de lutte contre les violences sont en conséquence initiés autour des préfets, urgentistes, travailleurs sociaux dans tous les départements et nous avons lancé une augmentation des fonds pour le 3919 qui est le numéro d'appel qui peut répondre désormais à 100% des appels passés. Le ministère de l'Intérieur a également lancé une plateforme de dialogue avec les policiers et les gendarmes formés spécifiquement pour cela. Et pour alerter les témoins, nous avons mis 4 millions d'euros sur une campagne pour dire que lorsque vous êtes témoin d'un cambriolage, vous appelez la police. Lorsque vous êtes témoin de violences conjugales, vous devez aussi appeler la police.
La ministre a enfin indiqué que 5000 places d'hébergement d'urgence étaient dédiées aux femmes battues sur l'ensemble du territoire.
Bintiminoudi, Patrick Vinciguerre.
Avec François-Xavier Tchéco, les maires de San Giuliano, conseiller territorial et président de la fédération LR, les Républicains de Haute-Corse. François-Xavier Tchéco, face aux violences faites aux femmes, au-delà des actions du gouvernement suffisantes ou pas, la réponse n'appartient-elle pas à chacun d'entre nous du regard que la société porte aux femmes et qui, hélas, évolue très peu, très lentement?
Oui, complètement. On ne peut que... Enfin, il n'y a pas de mots pour dénoncer... Ne serait-ce que commenter ce qui s'est passé à Île-Rousses ces derniers jours, cette mort atroce, cette maman, mère de 2 petits-enfants, qui a perdu la vie dans des conditions terribles. Mais par contre, c'est vrai que si on veut agir et sortir des simples condamnations de principe, il y a plusieurs leviers d'évidence à mettre en place et à actionner. Alors, il y a le levier, bien évidemment, l'État se propose d'adapter réglementairement. Alors, on entend beaucoup de choses. On parle de graver aussi dans le marbre le fait que l'interruption d'IVG ne puisse plus être critiquée. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, penser qu'une loi pourrait, par exemple, encore remettre en cause ce droit fondamental pour les femmes.
Votre candidat aux européennes, François-Xavier Bellamy, qui porte le même prénom que vous, d'ailleurs, a dit que personnellement, il était contre l'avortement.
Je vous confirme, voyez, on peut avoir le même prénom et être sur des opinions totalement différentes sur ces sujets-là.
On va en reparler plus tard.
Voilà, pour ma part, moi je considère que ce droit des femmes doit être gravé dans le marbre. Et bien évidemment, ça donnerait par exemple un signal fort au niveau de ce qui est du réglementaire. Mais pour aller plus loin sur ces sujets, un exemple simple, cette dame avait porté plainte. Il y a aussi sans doute des questions à se poser. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu des plaintes croisées. Il va falloir aussi se poser des questions pour vraiment privilégier la sécurité de la personne en général la plus vulnérable. Et souvent... Très souvent, c'est la femme.
On l'a encore vu. D'une manière plus globale, François-Xavier Tchekol, c'est demain la journée internationale des droits de la femme. Dans un récent sondage réalisé pour le compte de la Fondation de Femmes, il apparaît que 33% des femmes considèrent que s'attaquer aux inégalités salariales est prioritaire. Faut-il, pour parvenir à une stricte égalité, légiférer en ce domaine comme on a légiféré pour imposer la parité homme-femme en politique ?
Alors, bon, moi, je ne suis pas toujours pour légiférer, sauf si ça doit avoir un rôle ponctuel, histoire d'être un détonateur, pour provoquer peut-être une prise de conscience.
Ça a été utile en politique.
Exactement. Mais aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas loin d'avoir atteint ce principe. Regardez chez nous, par exemple, c'est une femme qui conduisait la liste, pourtant rien n'impose à ce que ce soit une femme. Donc, on voit bien que ça a changé. Pourquoi pas imaginer, effectivement, que pour les premières années, histoire de lancer vraiment le débat sur ces sujets-là et d'accentuer la pression, on puisse légiférer. Mais je pense qu'il faut que ce soit pour une période donnée.
RCFM, Binti Minoudi, l'émission politique.
Alors, François-Xavier Tchekol, autre sujet qui n'a rien à voir. Nous sommes à la veille d'une grève de la CGT dans le maritime, à la méridionale, mais aussi à la Corsicaline. Sur Twitter, il y a quelques jours, vous avez mis en garde contre le risque d'un possible monopole privé. Bastaguzzi, avez-vous écrit, qui est responsable de cette situation ? Y a-t-il vraiment un risque de monopole privé ?
Alors, plusieurs questions, plusieurs réponses. D'abord, le risque, il n'est pas que sur le monopole. Il y a aussi ce que la loi appelle l'abus de position dominante, c'est-à-dire que vous pouvez très bien, en laissant quelques miettes aux uns et aux autres, provoquer une position qui s'apparente au monopole, c'est-à-dire quelque part vous écraser la concurrence en laissant quelques miettes. Donc, on n'est pas obligé d'arriver au monopole pour engendrer des conséquences très graves.
Et quelles seraient les conséquences d'un monopole privé, pour qu'on comprenne bien ?
Je l'ai déjà dit, de pire qu'un monopole public, il n'y a malheureusement que le monopole privé. Donc les conséquences, elles sont simples. C'est la tarification que l'on veut, le service que l'on veut, tout ça en pleine déliquescence, puisque comme vous êtes seul et que forcément les gens sont obligés de faire appel à vous, vous imaginez toutes les dérives. Le service se ressentirait, le prix pourrait exploser. Il n'y a pas si longtemps, on a eu ce genre de choses sur la Sardaigne. Donc ce risque est extrêmement grave. Alors, les responsabilités, pour répondre à votre deuxième question, d'abord, moi...
Puisqu'en amont, oui. Il y a un appel d'offres, hein, il faut
exactement, le puisqu'on est dans le cadre de la négociation pour la délégation de
service DSP, public.
Exactement. Et je crois que, pour moi, les responsabilités sont multiples. Tout d'abord, il va falloir aussi se poser la question de la personne qui a rédigé, ou la personne publique qui a rédigé ce cahier des charges, c'est la collectivité territoriale de Corse. C'est donc la majorité territoriale. Et rédiger une DSP pour 15 mois, puisqu'on a en tête dans la foulée de faire une compagnie régionale, je parle pour la majorité.
Avec une DSP cette fois-ci de 10 ans.
Exactement, mais si vous voulez, je parle de celle qui est l'objet de la négociation contractuelle. 15 mois en obligeant l'ensemble des compagnies à répondre à toutes les lignes, c'est pas de nature à favoriser la concurrence. Puisque imaginez les responsabilités qu'il faut prendre pour avoir
assez de bateaux. Il y a selon vous une volonté derrière tout ça ?
Non, je ne pense pas qu'il y ait une volonté. Je pense que, par contre, il y a des conséquences. Mmh. Aujourd'hui, la conséquence, elle est simple. Et je ne vais pas rentrer dans l'aspect juridique. Alors, je suis comme vous, j'ai cet avantage, je ne suis pas la commission. Donc, je lis la presse, je vois ce qui est relayé sur ce qui se passe, en toute transparence. Une des conséquences, elle est simple. Premièrement, on a une compagnie éliminée dès le départ sur tous les ports. Avouez que...
Pour des raisons de forme, c'est la Corsica
Ferries. Pour des raisons de forme, mais in fine, vous perdez un des trois soumissionnaires. Deuxièmement, je prends l'exemple du port d'Ajaccio, je pourrais prendre l'exemple de Propriane, une autre compagnie éliminée.
La méridionale.
Vous imaginez la négociation sur Ajaccio ?
Faut-il abandonner, comme le suggère Pierre Maté, le patron de la Corsica Ferries, faut-il abandonner l'actuel système de délégation de services publics ? Il coûte très cher.
Alors, je ne suis pas sûr que ce que propose Pierre Maté coûterait forcément moins cher, mais toutefois, l'idée est à creuser.
On aurait des obligations de service public.
Exactement. Alors, lui parle.
On va pas rentrer dans les détails, c'est assez compliqué.
Exactement. Plutôt que d'aider les compagnies, il y aurait quelque part une aide
aux passagers.
Aux passagers. Et, ou alors à la marchandise.
Et qui bénéficierait directement aux passagers.
Voilà. Alors, moi, ce principe m'agrée plus. Pourquoi? Parce que, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, la question qu'on devrait tous se poser, c'est quel est l'intérêt des Corses dans toute cette affaire? Et nous, on a une réponse sur ce sujet-là. L'intérêt des Corses, quel est-il ? Et je ne pense pas que vous allez me contredire. C'est d'avoir une offre la plus variée possible, la plus large, dans les meilleures conditions et où la concurrence s'exerce pleinement. C'est ça l'intérêt de la Corse. Ce n'est pas du tout d'avoir un monopole public ou privé. Donc, regardez ces quelques mois qui sont passés depuis que Corsica Linea a racheté la SNCM. On a pu tous naviguer avec la compagnie que l'on souhaitait dans des conditions qui étaient plutôt bonnes, puisque pas de grève.
Et les prix ont baissé ?
Alors, non, les prix ont baissé, et justement, c'est une des questions encore à se poser. Mais en tout cas, ils n'ont pas augmenté dans des proportions que je qualifierais de liées à une entente. Ça montre bien que ce qu'on a vécu ces quelques années, au moins au niveau du service et de la possibilité pour chacun de naviguer, était plutôt noble. Donc, moi, mon inquiétude, c'est que je veux pouvoir continuer à choisir ma compagnie quand je quitte la Corse. Une des trois, voire plus.
La compagnie régionale maritime promise en 2021 peut être la solution ?
Absolument pas. Absolument pas, parce que on a vécu les errances d'une compagnie nationale d'État. Je vous les décris pas. Feu la SNCM. Vous imaginez bien qu'en créant une compagnie régionale, on va retomber dans le même système, marché protégé et autres. Et expliquez-moi comment on fait pour garantir une égalité de traitement quand d'un côté vous avez une compagnie quelque part qui est liée au pouvoir en place, et à côté des compagnies qui sont indépendantes. Ça paraît difficile d'être honnête là-dessus.
Nous verrons bien, 2021, c'est encore loin. Autre sujet sur lequel vous êtes très critique vis-à-vis de la majorité territoriale, c'est les déchets, un dossier sans fin. Va-t-on sortir de tout enfouissement ? Emprunte-t-on le chemin ? Vous êtes concerné, vous, en tant que maire de San Julian, puisque vous n'êtes pas très loin du centre de Prunay-Livio-Mourobre.
Tout à fait. Alors, là aussi, que d'errance depuis, et puis que de changements depuis 2015, puisqu'au départ, on nous avait expliqué que tout ça irait très vite et somme toute très bien. Et je crois que la majorité s'est heurtée au principe de réalité. C'est-à-dire que, bien sûr, que le schéma qui est envisagé est aujourd'hui cohérent. Son problème, c'est qu'il est en décalage temporel avec une efficacité à minima. Le tri, on voit bien les difficultés qu'on a pour aller vers les 60%. Il faudra des années. Donc les enfouissements vont continuer à être nécessaires pendant cette période. Bien sûr, je vous dis tout en vrac, il faut ces unités de surtri. Mais la vraie difficulté, c'est que va-t-on faire pendant ces années de transition de ce qu'on produira au niveau des déchets ? Où va-t-on les envoyer ?
Puisque
le pays ami apparemment ne veut pas récupérer nos déchets, ce que je peux comprendre. Mais Viganel et Prunay, ils ne sont pas en capacité réglementaire d'absorber la totalité de ce qui est produit.
Alors, les transports, les déchets, deux dossiers majeurs, mais d'une manière générale, comment jugez-vous la politique de la majorité territoriale ? On a le sentiment que la principale opposition aujourd'hui vient de l'intérieur de cette majorité et pas de l'opposition qui a du mal à faire entendre sa voix. Et surtout, on ne perçoit pas trop quel est son projet, le projet alternatif.
Alors, déjà, j'ai envie de vous dire quel est le projet non alternatif de la majorité. Moi, j'ai plutôt du mal à le percevoir, puisque, pour être clair avec vous, aujourd'hui, on voit que le quotidien est à peu près géré. Hein, il ne faut pas non plus tomber dans une opposition stupide. Le quotidien est à peu près géré, de manière à peu près, on l'a dit, les déchets posent encore problème. On verra pour le reste. Mais ce qui manque le plus à cette collectivité, c'est de l'ambition. Certains ont voulu cette collectivité unique au détriment des deux départements. Nous étions totalement contre. Nous continuons à l'être et nous voyons qu'aujourd'hui, ça s'est fait au détriment des territoires comme la Haute-Corse, comme Bastia, voire comme l'extrême sud. On a voulu centraliser.
Gilles Sibillone, la dernière fois à l'Assemblée de Corse, a reconnu qu'il y avait un problème de proximité de lien de proximité qui était coupé.
Oui, mais on l'a dénoncé dès le début, donc il ne fallait pas se précipiter et tout ça, parce que le gouvernement de M. Hollande avait dit chiche. Il ne fallait pas se précipiter dans cette urgence qui aujourd'hui a engendré de terribles errances. Prenez l'exemple de la Chambre des territoires, où je suis moi-même élu, mais de qui se moque-t-on ? De qui se moque-t-on ?
C'est une coquille vide.
On l'a coupé, c'est une coquille vide. Mais ceci faisant...
Mais votre projet alternatif, on sent pas ce souffle de l'opposition.
Non, mais si vous voulez, il faut être clair. Aujourd'hui, on est
comme
confronté...
Comme si vous étiez tétanisé, non, en quelque sorte.
Non, pas du tout, mais... Non. Déjà, pour avoir de vrais débats, M. Vinciguerre, il faut être en capacité que ces débats soient amenés au niveau de l'Assemblée de Corse. Alors, je vais vous faire une confidence. Depuis qu'on est sorti des débats où il y a eu des oppositions très fortes, notamment sur l'aspect évolution constitutionnelle, je peux vous dire que les grands sujets qui nous arrivent sur la table, ils sont peu nombreux. On a eu les transports aériens, par exemple, où nous avons marqué notre différence. Nous avions demandé, lors du débat, à ce que les personnes en difficulté et les jeunes bénéficient de tarifs réduits, ça a été écarté. Donc, vous voyez, il n'y a pas forcément des éclairages à la hauteur. Je peux vous dire aussi un autre élément que vous allez comprendre aisément. Sur les infrastructures routières, nous sommes force de proposition. Nous disons qu'aujourd'hui, il faut un plan Marshall, c'est-à-dire qu'il faut un vrai document de planification permettant de débattre sur ce que doivent être les infrastructures routières de la Corse dans les prochaines années. Là, c'est pareil. On n'arrive pas à avoir un vrai débat pour savoir comment on finance, à quelle échéance, où sont les priorités. Donc, effectivement, le fait d'être confronté à une majorité absolue ne nous rend pas forcément très audibles, mais je peux vous dire que le travail est fait. Ensuite, on verra ce que les Corses jugeront.
C'est le fait aussi que l'opposition est divisée, morcelée.
Alors moi, je ne partage
notamment
pas.
À droite. Hein,
je ne partage pas parce que je me suis aperçu au contraire qu'en matière de prise de parole, le fait d'être trois groupes séparés multiplie par trois les capacités à intervenir. Regardez la majorité territoriale. À force de parler d'une seule voix, finalement, ils se sont divisés afin qu'on en entende deux.
Voilà, maintenant on entend plusieurs voix aussi.
Mais c'est peut-être ça la démocratie aussi.
Bintiminoudi, l'émission politique.
Alors, dernière partie, François-Xavier Tchéco, on en vient à des questions plus politiciennes. Le comité national d'investiture de votre parti, Les Républicains, a dévoilé hier les 30 premiers noms de sa liste aux Européennes du 26 mai. Et le premier Corse, une femme, apparaît à la 26e place. C'est la jeune Livia Graziani Sanjo. Autant dire qu'à cette place-là, elle ne sera pas élue. Vous espériez mieux ?
Non. Non, très sincèrement... Bon,
vous n'êtes pas très ambitieux, alors.
Non, réaliste. C'est une de mes qualités. Je viens de la Terre, donc
vous
je suis
si peu.
Réaliste. Si vous voulez, quand vous êtes 26e sur 79, je reprends ma lecture de ce matin, du Corse Matin, qui annonçait que la Provence n'était pas représentée. La Provence, que je sache, il y a une grande ville, n'était pas représentée dans les 30 premiers. Vous voyez, ça laisse pantois. Mais en vérité, on a pris le pari de rompre avec nos habitudes anciennes de faire de la politique. On a dit, on a martelé qu'on allait donner une chance aux jeunes de se faire connaître, de porter un nouveau message. Et quelque part, mademoiselle Livia, qui est la 13e femme sur la liste, la 26e,
on va pas l'entendre beaucoup. Bah,
j'espère que vous allez l'inviter, et j'espère que d'autres le feront. Et vous verrez que vous allez l'entendre. Et vous ne serez pas déçus, parce que c'est une excellente candidate, et quelqu'un qui a des idées très claires sur ce que doit être la politique. Donc vous verrez, vous ne serez pas déçus.
Vous allez participer à cette campagne où, pour l'instant, les Républicains ne sont crédités dans les sondages que de 10%, soit deux fois moins que le score obtenu à la présidentielle par François Fillon. Comment expliquez-vous un tel affaiblissement, une telle chute?
Alors, d'abord, la campagne n'a pas encore vraiment commencé, si ce n'est les avantages donnés à M. Macron, puisque lui, tous les jours, on le voit à la télé. Alors, on s'abrite derrière les deux mois de campagne pour nous expliquer que ça ne rentre pas dans le quota de présence, mais enfin, force est de constater que ça paraît quand même étrange en démocratie. On est passé même à 8, M. Vinciguerre, en termes de sondage. Hein. Donc, aujourd'hui, on est donné entre 12-14, mais vous savez, ça va déjà mieux. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que moi, je crois beaucoup, malgré quelques différences d'appréciation, à la candidature de M. Bellamy, parce que là, c'est pareil, du 109, une vraie volonté de débattre. Et je pense qu'on est loin de retrouver le score qui sera le nôtre dans quelques mois.
Cela dit, dans vos rangs, à l'image de Jean-Pierre Raffarin ou encore, c'est plus ancien, d'Alain Juppé, beaucoup prennent leur distance avec Laurent Wauquiez et votre tête de liste, donc, dont vous venez de parler, François-Xavier Bellamy, et ils se rapprochent de la majorité présidentielle. Chez vous, il n'y a aucune tentation Macron ?
Chez moi, personnellement ?
Oui.
Non, j'ai été vacciné dès mon plus jeune âge, donc plus sérieusement. Moi, je sais défendre le rôle du président de la République quand il est dans un rôle tel qu'il a été pour la Corse, où je pense que sa position au niveau de la proposition qui était faite, au niveau de la modification réglementaire, est une proposition qui était, à mon avis, de bon aloi. Par contre, il y a d'énormes différences d'appréciation, que ce soit par exemple sur l'immigration, que ce soit sur la réduction du train de vie de l'État. Donc non, je ne suis pas Macron-compatible.
Alors, pour terminer, venons-en à la Corse. À un an des municipales, Stéphanie Grimaldi, LR comme vous, s'est déjà déclarée candidate à la mairie de Bastia. C'est validé ou pas encore?
Alors, c'est très simple, je vais vous apporter une réponse qui est propre à nos partis. On est dans des systèmes où toutes les communes de plus de 30 000 habitants, la fameuse CNI intervient. Donc Stéphanie a déjà fait acte de candidature, mais on peut avoir, il faut être tout à fait objectif, d'autres personnes qui se présenteraient. Et bien évidemment, le dernier mot reviendra à la Commission nationale d'investiture, puisque comme je vous l'ai dit, toute commune de plus de 30 000 habitants.
Sylvain Fante, il pourrait lui aussi prétendre être candidat?
Alors Sylvain Fante n'est plus adhérent chez nous depuis maintenant 2 ans. Donc vous savez que, enfin vous ne le savez pas, mais je vous le dis, quand on n'est plus adhérent depuis 2 ans, on perd le titre, si tant est qu'il l'intéresse, d'adhérent des Républicains. Mais Sylvain Fante est à droite, il pourrait lui aussi, je suppose, être candidat. Donc on attend tout ça sereinement. Les choses vont sans doute se précipiter après les européennes et plus il y aura de candidats, mieux on se portera.
Vous discutez avec les autres forces de droite sur Bastia, notamment, je pense évidemment à Jean-Martin Mondelogne.
Bien évidemment. Bien évidemment, la droite dans sa diversité continue de discuter, et ça aussi je pense que c'est quelque chose qui change, et on échangera, et moi j'ai bon espoir que nous arrivions sur une position commune avec Jean-Martin, et avec toute son équipe d'ailleurs, hein, Marie-Thérèse Mariotti et consort, à ce que nous arrivions sur une proposition commune pour que de toute façon, et là je vais être très clair, une liste de droite soit présente au premier tour à la municipale de Bastia.
Une liste LR. Alors, dernière question avec une réponse rapide. François-Xavier Tchekoli, il y a quelques mois, à l'occasion des élections dans les deux fédérations LR de Corse, il avait été question de fusion. C'est toujours d'actualité?
Alors, il est toujours question de mettre, bien évidemment, une représentation régionale en place. Là, je vais être tout à fait honnête avec vous. Nous, on la pousse et on y tend. Mais il faut rassurer. Il faut rassurer nos adhérents, parce que je ne vous cache pas que l'expérience de la collectivité unique a laissé des traces.
Eh bien, merci, ce sera votre conclusion, François-Xavier Tchekoli.
Merci de m'avoir invité.
RCFM, Bintiminoudi, l'émission politique.
Bintiminoudi avec François-Xavier Tchekoli, c'est terminé. Une émission à écouter ou réécouter sur notre site bleu-rcfm.fr. La semaine prochaine, même heure, nous recevrons Jean-Jacques Panon, sénateur de Corse du Sud. À suivre, Michael Andréani.